France Inter.
Bonsoir, nous sommes en public et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Toute la troupe est dans les coulisses, prête à bondir sur scène et dans vos oreilles. Et pour que ça commence, il faut demander à notre réalisateur, François Audouin. François, top antenne.
En public et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir.
C'est notre projet.
Deux heures de rire, d'émotion et de musique avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Henrik Lomprey, Chewbacca, Isabelle Sorante, Thomas Bideguin, Mao Drama et Guédré. Et la reine de la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui accueille toutes les sensibilités de l'humour puisqu'elle a toujours dit à ses chroniqueurs « Come as you are », Charline Vanhoenacker.
Le grand dimanche soir.
Est-ce que vous avez entendu parler des PFAS ? Ah voilà, des molécules présentes dans nos vêtements, nos emballages ou nos voitures, qui sont des polluants éternels. Cette semaine, les députés ont décidé de restreindre la fabrication et la vente de produits qui contiennent ces polluants. Victoire, on en est enfin débarrassé. Sauf, oui, vous le savez, hein. Putain, vous êtes tellement à la page. Sauf le gouvernement a fait une petite exception pour les ustensiles de cuisine. Voilà, c'est pas grave, je veux dire, si les trucs qu'on cuisine finissaient dans notre corps, ça se saurait. La majorité s'est dit, oui, les gens utilisent des poêles avec des polluants éternels, mais si dedans, ils cuisinent des produits bio, ça s'annule. Ouais. Alors le groupe SEB a mis la pression parce que la loi mettrait en péril 3000 emplois dans les usines Tefal. Alors, pour s'accrocher autant à des produits anti-adhésifs, il faut le faire hein, quand même. Et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, se justifie en disant que les écolos veulent juste se payer la poêle Tefal. Il dit, pour les ustensiles de cuisine, prenons le temps pour mieux légiférer. C'est vrai ça, on n'est pas aux pièces. On a l'éternité pour s'occuper des polluants. Manifestement, le truc de Roland Lescure pour lutter contre les polluants éternels, c'est la mauvaise foi infinie. On est passé à ça qu'ils nous disent, si les écolos s'en prennent aux poêles, c'est parce que les écolos, c'est rien que des wok. Oui, j'ai osé ce jeu de mots, bien sûr. Les amateurs de cuisine asiatique ont aussi le droit de rire sur cette antenne. Et lors du vote, les groupes RN et LR se sont abstenus. Apparemment, c'est un sujet qui les intéresse pas parce que eux, bon, s'ils n'ont rien à faire des poêles, leur spécialité, c'est plutôt les casseroles. Et voilà, j'avais choisi ce sujet uniquement pour faire ces deux vannes. Que dire maintenant ? Que dire ? Que c'est rare les trucs éternels. Il y a les diamants et les polluants. Eh ouais, donc les poils à frire sont éternels, ça y est. Donc entre sauver la planète ou sauver les poils Tefal, le gouvernement a choisi. Donc pour survivre, il nous reste à vivre sur une poêle à frire. Vous me direz, c'est déjà le cas l'été, ça c'est sûr. Mais donc, après les débats sur les barbecues, aujourd'hui, on est parti sur la poêle à frire, quoi. Donc, chez vous, les Français, il suffit de cuisiner pour déclencher une affaire d'État. Hein. Et après, ce sera quoi ? Le plan de Chaguette ? Les Thermomix Peppers ? En plus de tout ça, on a aussi appris cette semaine que la qualité sanitaire des eaux minérales de Nestlé n'était pas garantie. En gros, si tu laves ta poêle Tefal avec de la Vittel, tu perds 15 ans d'espérance de vie instantanément. Eh oui. Les polluants éternels, c'est entre 10 000 et 14 000 substances différentes. Ils sont partout. Ils envahissent notre quotidien. Et toujours pas d'émission spéciale sur CNews. Alors pour conclure, en toute objectivité, hein, comme toujours, oui, le gouvernement avait anticipé la dangerosité liée aux ustensiles de cuisine. Oui. Ça fait bien un moment qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'on n'ait plus les moyens de mettre quoi que ce soit dans la poêle.
Waouh! Putain, Charline, et c'était vraiment hyper intéressant cette chronique.
Merci. Mais attends, c'était drôle aussi, non?
Oui, je pense pas que ce soit le but recherché, mais.
Ouais, non, mais t'as raison, parce que moi, ce que je cherche, c'est faire réfléchir. Hein.
Mais donc, Chacha, si j'ai bien écouté, ça veut dire qu'on peut plus cuisiner avec du Tefal.
Parce que tu cuisines, toi.
Non, non, mais je vais le dire à Adouli.
Hein. Moi, je me suis acheté une nouvelle poêle, hein, ça y est, en inox.
Ah oui, mais non, mais ça accroche, ça. Non.
Ah bah oui, non, mais faut choisir. Ou ça accroche ou ça pollue éternellement.
Ouais, moi, quand ça accroche, en fait, d'abord je cuis à l'huile d'olive et ensuite je nettoie avec du Spontex.
Ouais, mais Spontex, ça reste super galère. Et
t'es sûr?
Non, en fait, le truc, si je peux me permettre, c'est que si on met un petit peu de.
C'est bon, il y a aussi des garçons qui écoutent. Hein.
Ouais. Ben, les polluants, ouais, ben voilà.
Elle était les super, cette blague.
Finalement, ouais, je la fais quand même, la mienne ou pas?
Oui.
Ah bon?
Non, mais Brick, tu veux bien, mais les polluants, ça fait des problèmes d'érection après. Hein.
Ah. Tu peux refaire ton billet, Charlie. Ouais.
Bon, allez, musique. Musique. C'est le moment d'accueillir le musicien qui joue en live. Mon cher Djoubaka, aujourd'hui, c'est... Albin de la Simone.
Exactement, qui s'y colle.
Eh ouais.
Il y a un an paraissait le 7e album d'Albin de la Simone intitulé Les 100 prochaines années. On y cause du temps qui passe, de la main du peintre, de la forêt, et c'est le producteur sage qui s'était collé à la réalisation de ce disque. Alors depuis, il est toujours en tournée, c'est un petit globe-trotteur, notre Albin de la Simone, et c'est pas fini, vous pourrez encore l'applaudir. Et pour nous, il chante Les 100 prochaines années.
Et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après on voit. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains, roulement habillé. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons au de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu.
Oh ben on voit quand vous voulez, Albin de la Simone. Accompagné au saxophone par Christine Rock. Applaudissez tous les deux. Vous serez le 23 avril au Trianon. Et puis vous serez le 12 avril à Saint-Barthélemy d'Anjou au théâtre de l'Hôtel de Ville. Et puis bien sûr votre album disponible. Et on vous attend en deuxième heure, cher Albin de la Simone, pour une reprise que vous nous avez promise.
Oui, moi aussi. Et je vous attends.
On dit pas que. On attend. On attendra jusqu'à 19h20, hein, pas plus. Hein,
Oui, et puis après, je m'en vais tout de
suite. Non. On vous garde pour les 100 prochaines années. On vient de conclure ce deal.
Ça marche.
Merci, Albin de la Simone, merci. En live sur France Inter, dans le grand dimanche soir, qui dure jusqu'à 20h. Et merci également à Christophe Michou, Olivier Leroux et Théo Delobadère à la prise de son et au mixage de l'émission. Alors pour trouver des infos réjouissantes, chers amis, il faut pouvoir trouver une anguille dans une botte de foin. Attends, j'avais demandé à Aymeric d'écrire le lancement, alors évidemment. Allez, c'est le journal.
Vous me parlez de mise à contribution des plus aisés. Est-ce que nous avons eu des oppositions de principe quand il s'est agi d'aller chercher les profits indus liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation? La réponse est non.
Le journal des bonnes nouvelles.
Non, mais je ne sais pas ce que c'est que super profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais.
Oh.
Et on commence avec la principale bonne nouvelle de cette édition.
Oui, mercredi, Gabriel Attal a répondu seul aux questions des députés lors des questions au gouvernement.
Oui, excellente nouvelle, puisque ça permet de dégager du temps aux ministres.
Oui, ainsi oui. Bruno Le Maire a profité pour écrire 4 livres. Et Darmanin pour faire du compost, figurez-vous.
Du compost?
Oui, il a pris toutes ses idées de merde et ça fait un super compost, Charline.
C'est une bonne idée, ça, oui. Dites donc... Mais Darmanin, il est écolo, en fait.
Ah bah, c'est 100% permaculture, oh là, Darmanin, en ce moment.
Non, c'est un agri-terroriste.
C'est incroyable.
Alors, Prisca Thévenot a affirmé qu'un attentat avait été déjoué le week-end de Pâques avant de se rétracter.
Voilà, bon, c'est pas comme si elle était porte-parole du gouvernement non plus, celle-là.
Ah bah, elle est porte-parole du gouvernement.
Ah, elle est porte-parole.
Ouais.
Ah bon,
ah oui.
Vous êtes sûr?
Ouais.
Enfin, je veux dire, elle est au courant, elle est au courant de ça ou pas?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Ah, bah,
ça,
oui, bah, elle n'est pas au courant, on lui reproche des trucs, je trouve ça pas normal,
Charline. Vous avez raison. Bon. Donc, Prisca Thévenot encore,
toujours.
Alors, ça lui donne une chance de se rattraper, hein, parce qu'on l'aime bien.
Ouais.
Elle a accepté la démission de son conseiller en charge des discours, après que Mediapart a révélé son passé proche de l'extrême droite.
Oui, et est-ce que vous voulez, Charline, une petite cerise sur votre gâteau?
Oh, allez-y.
Eh bien, figurez-vous qu'elle bossait déjà pour Olivier Véran.
Oh là là,
ah, c'est incroyable.
Oh là là, elle est bien juteuse, cette cerise. Bien
une petite pointe de crème fraîche?
Allez.
Et bien cette personne a été notamment en charge de la riposte au discours d'extrême droite.
Ouh, là ça fait un peu trop, je prends de l'indigestion là.
Tout est vrai.
Bonne nouvelle, le gouvernement a lancé un plan de communication sur les allergies au pollen. Ah, vous êtes allergique au pollen vous alors?
Non.
Alors attendez, ah oui, attendez, j'ai ma petite idée, attendez. Gouvernement. Ah ben voilà, je me disais bien, c'est pas le pollen. Selon les services de renseignement tchèques, des élus européens d'extrême droite auraient été payés pour relayer la propagande de Moscou et Jordan Bardella, lui, a nié l'implication d'élus RN.
Eh ben alors attendez Charlie, parce que moi je crois que Jordan Bardella est sincère.
Ah ouais.
Ah oui.
Donc vous pensez que le RN il est pas impliqué?
Évidemment que non.
Ah
c'est
bon.
Sûr que depuis quand le RN il a besoin d'être payé pour relayer la propagande de Poutine? Ils font ça gratos. Je ne vois pas pourquoi ils seraient payés.
En effet. Ben bah voilà. Excusez-moi.
J'ai plus de questions. Votre honneur. Vous pouvez continuer. Autre bonne nouvelle. Édouard Philippe est soupçonné de prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral. Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même.
Ah non mais là c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui.
Ben bah, si. Autant de casseroles au cul. C'est peut-être bientôt un retour au gouvernement, Charline.
Média. À présent, avec une nouvelle très réjouissante, car Philippe Val sort un livre, c'est génial.
Oui, et alors la meilleure nouvelle du jour, c'est que le livre s'appelle Rire.
Ça, Philippe Val qui sort un livre qui s'appelle Rire, c'est déjà merveilleux.
C'est bon, c'est
bon. Retrouvez dès le mois prochain le livre d'Isabelle Sorante qui s'appelle 3200 recettes de foie gras avec Jean-Marie Bigard, co-auteur.
Oui, on a hâte. Voilà. On a hâte.
Allez, bonne nouvelle encore, décidément, il y en a beaucoup.
Il y en a plein.
Oh là là, de plus en plus. Selon une étude publiée sur Science Focus, passer du temps avec son animal de compagnie améliorerait la concentration et réduirait le stress.
Et oui, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron passe autant de temps avec Christophe Barbier. C'est pour le stress.
Ça explique cela, bien sûr. Et en parlant d'animal de compagnie, il est temps de retrouver notre spécialiste, Aymeric Lompré. Alors, Aymeric,
sympa.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Charline, aujourd'hui, comme vous êtes mon idole, je vais faire comme vous. Je vais parler des pistaches.
Des ?
Les pistaches, Charline, hein, c'était le sujet de votre édito.
Mais pas du tout, c'était les pifaces.
Ah bah ouais.
Quoi ?
Les polluants éternels, c'est des pifaces, PFAS, comme ça, pas les pistaches.
J'ai fait les pistaches, moi. Ah. Bon, je le fais quand même. Ah bon. Les pistaches sont des fruits secs, produits par des pistachiers. Elles s'accommodent très bien dans le pesto ou encore dans des
ça va pas. Ouais, non, déjà ça va pas dans la raclette déjà et en plus ça va pas en général. Mais c'est normal, vous pouvez pas vous intéresser aux PFAS. Est-ce que vous savez comment on peut détecter les PFAS dans le corps ?
Non.
En donnant une mèche de cheveux.
C'est moche ce que vous faites, Charline.
Merci Guillaume, merci Émeric. Et pour la blague sur les mèches de cheveux, vous verrez avec Guillaume, mon cher Émeric. Prochain point sur l'information, avec le journal de la rédaction, écrit là par la rédaction, donc ça va être bien.
Il est un peu moins marrant, je trouve, le journal de la rédaction.
Il y a un peu moins de bonnes nouvelles, c'est sûr. À 19h, bien sûr. Allez, on est en direct et il est 19h26. Non, 18h26, pardon.
Ah ouais, j'ai eu peur.
Oh, je vous ai fait peur chez vous. Vous étiez déjà là, faut coucher le petit, les draps sont pas secs.
Je vais prendre un bain.
Faut faire le tupperware pour demain, j'ai pas repassé ma chemise, pardon, je vous ai angoissé. Non, 18h26, le lundi matin est loin, loin, loin. Et on le repousse avec Juliette Arnaud. Le gouvernement, elle pousse comme ça le lundi matin avec une chronique, vous allez voir, elle pousse. Le gouvernement a lancé, c'est pour lancer la culture. Toujours bien de me dire pousser la culture, voilà. Allez,
allez, on reste
concentre.
Sur le texte, Charline. On reste sur le
super lent.
Sur ce qui est écrit, quoi.
Parce qu'en plus ça, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est. Je suis au courant, normalement. Allez, le gouvernement a lancé l'opération PlaceNet XXL contre le trafic de drogue. Et une phrase de la juge d'instruction du pôle criminalité du tribunal de Marseille vous a intriguée, Juliette. Elle dit ceci. « Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants. » Oh, oh, avez-vous pensé ? Parce que je sais que vous pensez comme ça.
Je pousse et je fais « oh, oh ».
Vous êtes dit « oh, oh », mais je la connais, cette guerre. Ne serait-ce pas celle de la griffe du chien ?
Je crois que c'est le meilleur lancement du monde. Moi, j'ai fait une école de lancement.
Franchement, si je m'en sors...
C'est incroyable ce qui est en train de se passer.
Si je m'en sors, je veux une médaille.
La griffe du chien de Don Winslow.
Oui, cette expression qui mêle guerre et drogue est loin d'être toute neuve. En 1971, Richard Nixon, président des États-Unis, la lance. Il appelle ça « War on Drugs ». C'est son appellation. Et en 1973, on voit la création de la DEA, c'est-à-dire l'Agence fédérale de lutte contre la drogue. Au début de ce roman, La griffe du chien, en 1975, le héros, Art Keller, est convaincu que c'est une chose à faire, cette guerre contre la drogue. Il en est convaincu parce qu'il a vu les conséquences terribles de la consommation d'héroïne, notamment dans son quartier pauvre de San Diego. Et puis, Art Keller est en situation de la mener parce que c'est un soldat aguerri et il vient d'être embauché par la DEA. Il dit à sa femme, peut-être s'agit-il cette fois d'une guerre qui vaut la peine d'être livrée. C'en est peut-être une que nous pourrons gagner. Par opposition, bien sûr, à celle que les Américains en 75 viennent de ne pas gagner, c'est-à-dire le Vietnam, grosse déculottée, militaire et morale, que Art Keller a faite. Et c'est d'autant plus la bonne personne que lui, Art Keller, est à moitié mexicain. Alors on l'envoie là-bas, au Mexique, dans ce pays qui a 3000 km de frontière avec les États-Unis, ce pays où passe la drogue produite en Colombie. Et parce qu'Art Keller parle espagnol, parce qu'il sait boxer, parce qu'il est fino, il commence par réussir au début du roman, et là où la DEA a échoué, il entre en contact avec des jeunes trafiquants. Et puis, très vite, le roman bascule. Art, en gros, a pris la confiance et un de ses adjoints perd la vie. Désormais, cette guerre sera aussi la sienne, puisqu'il est animé par un désir paroxystique de vengeance qui va souffler sur 20 ans. Et l'auteur, Don Winslow, en fait une construction littéraire inoubliable, parce qu'il y a des murs porteurs très solides, une documentation gigantesque et son savoir à lui d'ancien détective privé. Mais évidemment, ça suffit pas à faire un roman, madame. Alors Don Winslow multiplie les points de vue. Il y a celui donc du flic, celui du futur patron du cartel mexicain, celui d'un prêtre héroïque lié à une call girl, en tout bien tout honneur, non moins déterminée que lui, la call girl, un tueur à gages irlandais, les barbouzes de la CIA qui, dans le dos de la DEA et du Congrès américain, s'allient avec les barons de la drogue pour financer des groupes paramilitaires anticommunistes en Amérique latine. Et je laisse de côté les vendeurs d'armes chinois, le Vatican et la mafia italienne, parce que c'est ça le trafic de drogue. C'est tout à fait mondialisé et à ce titre, c'est géostratégique. Dans la vraie vie, entre 1971 et 1988, les importations de drogue aux États-Unis ont triplé. Je pense qu'on peut donc à nouveau parler de grosses déculottées. Enfin, je rappelle à toutes fins utiles que tout ça commence, ces guerres contre la drogue, quand la demande de drogue a explosé dans les pays riches. Je vous laisse y réfléchir en savourant ces 800 pages. Aucun risque d'overdose pourtant. Merci, bisous, merci.
Place au théâtre. Bon, au théâtre à la radio, hein, donc vous emballez pas. La scène se passe à l'Élysée, où le président de la République, ce sera vous Juliette, tient une réunion avec son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, incarné par Guillaume. Il en rêvait. Son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ce sera Aymeric, il en rêvait aussi. L'objet de cette réunion ministérielle, c'est cette fameuse guerre contre les trafiquants, bien sûr.
Bon, monsieur le président, le plan XXL anti-drogue est un échec.
Non, alors monsieur Darmanin, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché.
Oui, enfin, si vous voulez, mais il nous faut un nouveau plan anti-drogue, là.
Et si on crée le plan Maxi Best-of? Ou... Non, ah non, j'ai une autre idée. Ou le plan Double Whooper? Non, encore une autre idée, j'ai plein d'idées. Ou alors le plan Croque-Monsieur? Quoi? Ouais, ça se voit que j'ai la dalle.
Ouais, bon, allez, à part sur un plan culinaire, est-ce qu'il y en aurait un de vous deux qui aurait une idée?
Oui, si on crée le plan banlieue blanche.
Ah, blanche comme l'héroïne. Vous pratiquez l'art de la métonymie, Gérald.
Oui, et on vire tous les étrangers de nos banlieues, on met que des Français de souche.
Ouais, c'est quoi le rapport avec la drogue?
Ah, il faut un rapport avec la drogue?
Oui, et je crois qu'il faut éliminer la drogue de nos sociétés illico presto. Il faut créer un plan guerrier. Il faut qu'on sente qu'on a de grosses... Oh, mais pas du tout, c'est quoi ce bip? J'allais dire de grosses responsabilités. Il faut qu'on sente qu'on part en guerre contre la drogue.
Et si on créait le plan Voyage au bout de l'enfer?
Pas mal.
Ou mieux, le plan Apocalypse Now.
Ouais.
Ou alors le plan La Grande Vadrouille. One, two, three, j'ai vu ce quoi.
Chiffre tout.
Bon, allez, on va dire banco pour le plan Apocalypse Now.
Voilà, on va dire ça.
Seulement maintenant, il nous faut un homme pour incarner ce plan. Qui pourrait le faire selon vous?
Ça me paraît évident, je vais le faire.
Avec ton physique d'humoriste de France Inter.
Bah oui.
Trop là.
Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme puissant, un homme viril, un homme qui fait de la boxe, un homme qui a de grosses... J'allais dire de grosses capacités à mettre KO la drogue.
Bah là, on a l'impression que vous parlez quand même pas mal de vous, monsieur le président.
Écoutez, c'est vous qui me le proposez. Et je dis banco. Habemus Vandam.
Merci Juliette Arnaud et sa petite troupe. Merci également à Camille Agné à la vidéo, ainsi qu'à Cédric Depré et Julien Misaine aux Lumières. Bon, il est encore trop tôt pour aller au lit, parce qu'il est 18h33.
Mais vous avez vu, Charline, dites-le maintenant.
Je vous ai fait peur. Non, alors vous savez quoi, j'ai une horloge en face de moi, j'explique aux auditeurices. Hein. Et j'ai une espèce de bite d'amarrage avec un rouge au-dessus, pour m'indiquer qu'on est à l'antenne.
Et ça serait donc toujours la faute d'une bite.
Voilà, qui est en face de l'horloge. Et donc il y a un chiffre que je ne vois pas. Donc,
attendez, Juliette va déplacer la bite.
Juliette, est-ce que vous pouvez déplacer la bite ou l'horloge? C'est de l'artisanat, c'est de la radio, les amis. Hein, donc, où vous voulez. Voilà. Pendant ce temps, je disais, il est encore trop tôt pour aller au lit, 18h34. Merci, Juliette. Et pourtant, c'est l'heure de réclamer une histoire de l'oncle Joub, une histoire de la musique à connotation politique, et ce soir, à partir de ce tube.
Waouh, dites donc. Si je m'abuse, ne m'abuse, c'est gossip.
Vous ne vous amusez pas.
J'ai pas
vu. Vous
êtes
très forte.
Elle est bizarre, cette émission, non?
Elle est super. Alors,
elle
vous savez, Charline, on est en 2005.
Quand on sera à l'antenne.
Hein? Ouais, et on est quand même en 2005. Et il y a le trio de choc gossip qui existe depuis un bon moment. Et Bess Ditto est déjà une porte-parole et égérie du mouvement queer. Une enfance catastrophique la pousse à se réfugier dans la musique. Elle va en faire son amie privilégiée. Dès qu'elle le peut, elle fuit le giron familial, s'installe dans la ville d'Olympia, où le mouvement des Riot Girls est en pleine effervescence, je vous en ai déjà causé, et c'est là qu'elle va former Gossip. Et Bess Ditto ne va pas commencer par être prophète en son pays. C'est une grande gueule, règles. Elle revendique son homosexualité, son obésité et dit « et je vais lui voler pour l'éternité ». Elle dit « ce que vous pensez de moi ne me regarde pas ». Voilà. C'est l'Angleterre qui va permettre que son discours prête une toute autre écho, en fait. Et dans leur troisième album, il y a cette chanson « Standing in the way of control ». Au milieu des années 2000, souvenez-vous, aux USA comme ailleurs, le mariage pour tous, ben ça va pas de soi. Vous vous souvenez du bordel en France? Et ben là-bas, c'était pareil. 2004, il y a un affrontement politique mené par Bush et les conservateurs pour bloquer tout mariage entre personnes du même sexe. Et c'est de ce combat dont parle cette chanson. Elle dit « Je fais ça pour toi parce que c'est plus facile de perdre ». Et il y a surtout cette phrase qui vaut pour bien des libertés individuelles ou collectives. En faisant obstacle au contrôle, nous vivons nos vies. Allez, au revoir François.
Control.
C'est parfait.
Hey, Gossip, merci Djoubaka pour ce choix. Et allez, hop, un titre en plus dans la playlist politique de l'oncle Djoub.
Comme vous le dites bien.
Eh ouais, tous les dimanches soirs, les grands dimanches soirs de France Inter. Place à la nouveauté, à la jeunesse. Oui, elle a 34 ans, donc elle est déjà plus jeune que la plupart d'entre nous ici, non?
Dis donc, oh.
Pas hein moi. Hey,
non pas, non ouais. Mao, quel âge t'as, toi?
29, mais je dis 28. Donc
ah
je
voilà, c'est ça, c'est la plus jeune. Place au stand-up aussi à la radio. Elle vient du 9-1 des Ulysses. On l'accueille sur scène et entre vos oreilles, voici Flora Amara. Flora, on va t'aider à calibrer ta prestation. Si nécessaire, au bout de 3 minutes, tu entendras ceci. Ding, ding, ding. Et le micro et l'antenne de France Inter est à toi, chère Flora Amara.
Bonsoir France Inter, je suis très heureuse d'être là. Après, je vous cache pas que je suis très stressée. Après, il faut savoir que dans la vie, je suis une angoissée premium, ok? Pour vous dire à quel point je suis une angoissée plus, toute la semaine dernière, j'ai fait des crises d'angoisse, de peur que mon fils, il arrive pas à s'intégrer à la crèche. J'étais là, j'espère qu'il va bien manger, j'espère qu'il va se faire des copains. C'est sûr, je vais lui créer un traumatisme d'abandon à ce gosse. J'ai carrément intégré un groupe Facebook de parents, premier jour de crèche. Vous avez vu comment je vais loin dans mon délire? J'ai même pas de fils. Tout me stresse. Là, la dernière info qui m'a stressée, Jordan Bardella, quatrième personnalité politique préférée des Français. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a moyen qu'un jour en France, on ait un président qui s'appelle Jordan. Moi, je l'imagine arrive à l'Élysée en roue arrière, claquette chaussette, coupe mulet, premier ministre Kevin, ministre de la culture Kimberley. Ah non, on nous bassine avec l'islamisation des prénoms, on nous parle jamais de la beaufication des prénoms. Hein. Oh, moi, je veux une enquête exclusive dédiée à eux, vraiment. Brandon, Dinal, Kelly, qui sont ces gens? Nous avons enquêté sur leur gourou, un dénommé Cyril Hanouna. Non, je veux ça. Et puis là où je vois où le RN est complètement à l'ouest, il est complètement à l'ouest, le RN, c'est quand ils te disent « Les Français, ils en ont marre, ils en peuvent plus. Ils peuvent plus rentrer dans certains quartiers sensibles de France. » Et moi, je me demande, mais quel Français se lève un dimanche matin et se dit, putain, je suis dégoûté, quoi. Ce week-end, je voulais tellement faire la cité des 4000. Non. Les gars, je viens d'une cité. Le but du jeu, c'est pas d'y rentrer, c'est d'en sortir au plus vite. Non. Trop stressé. L'autre info qui m'a stressée cette semaine, 14% des plaintes pour agression sexuelle et 6% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation judiciaire. Quand je vois ces chiffres, je me dis, mais putain, mais même la patte patrouille, elle aurait de meilleurs résultats, quoi. C'est... Ah non. Ah non, c'est 2024, on a encore des milliers et des milliers de victimes qui voient leurs agresseurs impunis. Ils mènent leur vie, ils vont à Franprix, ils achètent leur petit café, tout. Ils vont à la boule des fois, et même des fois, ils font des blagues dans des comédie clubs. Et face à ça, on a une classe politique, et là, oh, Jaja, il n'y a pas moyen, Jaja, non, oh, Katana, baby, tu dettes ça. Le sens des priorités, quoi, vraiment. Non, moi, je me dis, quand est-ce que nos poulets vont arrêter les porcs. Vraiment, je me demande. Pour ceux qui ne savent pas, les poulets, c'est le surnom qu'on donne à la police, d'accord ? Et au-dessus de la police des polices, l'IGPN, eux, leur surnom, c'est les bœufs carottes, ok ? Et au-dessus de tout ça, la police de la police, le ministre de l'Intérieur, lui, son surnom, c'est le cochon. Voilà. Et je veux bien qu'on vive dans un monde de plus en plus vegan, mais il serait peut-être temps d'arrêter de protéger tout ce beau monde. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, France Inter.
Flora Amara, que vous pouvez retrouver au Point Virgule à Paris. Son spectacle « Assieds-toi, faut que je te parle ». Bah justement, asseyez-vous avec nous, Flora Amara. Et on peut retrouver toutes les dates sur votre compte Instagram, Flora_Amara1.
Tout à fait.
Et voilà, j'en profite pour embrasser les Kevin, les Brandon, les Jordan.
On les adore.
Bah évidemment, parce que déjà, ils nous écoutent. Et en plus, il y en a qui bossent avec nous. Donc, me mettez pas mal. Allez, restez avec nous et vous participerez à la grande convention citoyenne, qui est vraiment le moment que tout le monde attend. Généralement sur cette antenne toute la semaine.
Dans la France entière, vous voulez dire,
bien sûr.
Pas que sur cette antenne.
Et là, il est 18h42 sur France Inter, parce que maintenant je vois l'horloge qui est en face de moi.
C'est super.
Et je peux vous dire que c'est la bonne heure pour passer de l'humour à la culture, parce que culture, humour, humour, culture, on alterne le dimanche soir. Place ici à la littérature et à une sortie littéraire. Isabelle Sorrente, vous avez jeté votre dévolu sur un livre fraîchement paru.
Oui, c'est le dernier livre d'Élise Thiébaut, ça s'appelle « Ceci est mon temps ». Il est consacré à la ménopause et à l'andropause, mais surtout à la folie qui s'empare des humains quand la jeunesse se fait la malle. Comme Ovidie ou Starhawk, Élise Thiébaut fait partie de ces autrices qui creusent livre après livre le lien entre intime et politique. Elle entremêle donc dans « Ceci est mon temps », souvenirs personnels, réflexions féministes et enquêtes littéraires. On apprend ainsi que le mot « ménopause » du grec « ménès », menstruation et poésie, arrêt, a été inventé au XIXe siècle par le médecin français Charles-Paul-Louis de Gardanne. Ainsi naquit une pathologie. On apprend que ce mot n'existe pas dans la langue japonaise, qui parle de vieillissement progressif pour les deux genres, que la ménopause se dit changement d'année en allemand et changement d'énergie en chinois. Dans de très belles pages du livre, on apprend que les mots comptent pour parler du corps. Ce que disent les mères compte, ce que disent les médecins aussi. Chaque femme en vit aujourd'hui a la possibilité de rester féminine pour toujours. Écrit en 1966, le gynécologue américain Robert Wilson dans son best-seller intitulé Feminine Forever, où il vante les traitements hormonaux de substitution comparant les femmes ménopausées à des castrats, racontant avec un humour incisif qu'un patron de la mafia lui a demandé de réparer son épouse vieillissante avant qu'il ne la tue de ses propres mains. Mais le propos d'Élise Thiébaut n'est pas de critiquer les traitements hormonaux ni celles et ceux qui y ont recours. C'est la complexité humaine qui fascine cette autrice, celle du corps et surtout celle de l'esprit. Ce que questionne son essai, c'est cette crise d'amok qui saisit l'être humain, qui nous étreint lorsque nous nous voyons perdre la fougue de la jeunesse, l'être humain et tout particulièrement le mâle de l'espèce. Y compris et surtout celui qui se targue d'être le plus rationnel de tous, l'homme occidental du 19e puis du 20e siècle. Autant vous prévenir, les pages consacrées à l'andropause sont dignes d'un roman de science-fiction. On y apprend que le grand neurologue français Charles Brown-Séquard s'injecta des extraits de testicules de chien pour retrouver sa virilité déclinante, tandis que la tour Eiffel afficher son orgueilleuse érection pour l'exposition universelle. Mais c'est le docteur Voronov, un chirurgien français d'origine russe, qui eut l'idée, dans les années 20, de greffer dans le scrotum de riches hommes vieillissants des extraits de testicules d'animaux, en l'occurrence des singes, pour leur faire retrouver leur bestialité, pardon, parmi sa clientèle, le journaliste d'extrême droite Charles Maurras. Élise Thiébaut cite un extrait de sa lettre enthousiaste et galvanisée après la greffe. Ça marche, hein, voilà ce qu'il dit en résumé. Ça marche, alors que scientifiquement, ça ne devrait pas vraiment marcher à cause des grands problèmes de rejet. Ces hommes rationnels n'auraient sans doute jamais reconnu qu'ils s'adonnaient en réalité à d'anciennes pratiques magiques, consistant à incorporer les organes d'un ennemi ou d'un totem. Mais plusieurs recherches suggèrent aujourd'hui que ce sont ces greffes animales sur ces hommes rationnels qui ne voulaient pas vieillir qui contribuèrent à introduire le virus du VIH dont les singes d'Afrique étaient déjà porteurs. Et oui, telle est la sorcellerie du patriarcat, dissimulée sous des arguments logiques, des peurs archaïques, au lieu de les regarder en face. Alors, de quoi avons-nous si peur de vivre pour autre chose que pour la reproduction de l'espèce, écrit Élise Thiébaut dans la dernière partie de son livre, consacré au rôle biologique et spirituel de la ménopause et de l'andropause. Je ne vous en dis pas plus, il faut le lire, c'est vertigineux, ça s'appelle « Ceci est mon temps » et c'est publié aux éditions du Diable Vauvert.
Merci Isabelle Sorante, passionnant. Merci ma chère Isabelle.
Tout va bien, tout va toujours bien.
Ouais, je vérifie hein, que tout le monde va bien.
Vous arrivez à lire l'heure, Charlie ?
Oui, il est 18h47 sur France Inter.
Super. Wow, y a des progrès.
Et c'est l'heure d'un retour. Un retour attendu. Oui. Vous étiez venu nous voir comme invité en début de saison, comme réalisateur d'un long métrage, Soudain seul. Et quand vous êtes là, on a envie de se dire oh, enfin seul. Mais vous allez devoir faire plus court. Ça, c'est la contrepartie. Voici, chers auditeurs, le retour en tant que chroniqueur de Thomas Bideguin.
Wow. Eh oui. Eh oui, voilà, c'est à moi, c'est déjà à moi. J'ai un peu perdu l'habitude, mais les plus âgés s'en souviennent. Je viens de temps en temps à ce micro pour parler de storytelling, de ces histoires dont aiment à nous bercer les grands de ce monde, poètes, charmeurs ou milliardaires. Et les milliardaires, justement, tous les ans, le magazine Forbes va les chercher un à un partout dans le monde. Un peu comme nous quand on cherche de la monnaie sur le meuble de l'entrée avant d'aller à la boulangerie. Enfin voilà, sauf que eux, chaque fois, ils en trouvent plus. Donc là, leur classement est tombé hier, ils en ont trouvé 2780 des milliardaires. Bah, ça fait pas mal de croissants. Alors, cette année, Cocorico, comme disent les cons. Eh ben, Cocorico, on a 10 milliardaires français en plus. Alors, ça fait 53 au total. 54 si on compte Alex Vizorek. Mais lui, il est belge, il paraît. Alors, bon, les Anglais en ont 55 des milliardaires, mais tous ensemble, ils sont trois fois moins riches que les nôtres. Les Allemands, ils en ont 133, mais même à 133, ils sont pas plus riches que les nôtres. Et donc voilà, en foot, je sais pas, mais en milliardaire, on est meilleur que les Allemands et les Anglais. C'est dommage que ça soit pas un truc au JO, le milliardaire. Ça pourrait. Alors, quel rapport avec le storytelling, me demandent ceux qui suivent encore. Eh ben, c'est que l'histoire que l'on aime à nous raconter, c'est que les impôts en France sont les plus élevés du monde et qu'on peut pas prélever plus parce que sinon c'est la catastrophe, c'est la mutinerie, c'est le bounty, c'est le je me casse aux States. Et donc voilà. Alors, dans un film, quand quelqu'un dit c'est pas possible, en général, il est détrompé dans les 3 minutes. C'est ça, c'est la règle, c'est pas possible, il n'y a pas de requin à Amity Island. Et là, c'est pas possible, Fabrice Luchini va pas embrasser Anaïs de Moustier. Et là, c'est comme ça. Les récits ne tolèrent pas l'impossible et les prophéties sont faites pour être déjouées. Et justement, et en plus ici, c'est qui notre prophète ? Eh ben, c'est l'homme le plus pauvre du monde. Et oui, c'est Bruno Le Maire avec son trou de 50 milliards. Et voilà, cette passion pour les trous qui unifie. Ah bah oui, oui. Voilà. Donc voilà, cette passion pour les trous qui unifie le mystère de son action ministérielle et celui de son œuvre littéraire. Voilà. Bon, c'est pas possible d'augmenter les impôts, on vous l'a dit. Donc, on est bien obligé de prendre aux pauvres pour redistribuer un peu aux riches. Eh bien, ou d'essayer, comme à l'étage du dessus, de nous faire croire que les responsables du chômage, ce sont les chômeurs. Et puis, pendant ce temps, les milliardaires, eux, font leur miel comme de bonnes petites abeilles consciencieuses. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Emmanuel Macron est le président des ruches. Voilà. Eh oui, ça, c'est du retour. J'ai eu 2 ans pour la faire. Eh ben voilà. Le seul type de récit où les prophéties ne sont pas déjouées, ce sont les tragédies. Et je veux vous dire, c'est bien tragique de vivre dans un pays où le gouvernement ne se soucie pas de justice sociale.
Oh. Thomas Bilodeau. Merci mon cher Thomas. Oh. Et tiens, la série La Machine, la série Machine, c'est Machine que vous avez écrite, elle sera diffusée dès ce jeudi sur Arte.
Tout à fait, c'est une série qui parle de la réappropriation de l'outil de production par le prolétariat et de kung-fu.
Ben voilà, jeudi, Arte, Machine.
C'est le meilleur cocktail au monde.
Mais oui.
Charline, je vous sens lointaine. Où est-ce que vous êtes partie?
Eh ben, je suis derrière ma tribune installée. Je vous vois, Juliette, je vous vois. Depuis ma tribune installée au perchoir du studio 104. Et d'ici, mon regard embrasse les 800 personnes présentes. Putain, moi, tu me donnes une tribune, je me sens plus du tout là. Voilà, on a de quoi créer, vous l'entendez, un petit moment de démocratie participative avec une assemblée citoyenne que je m'apprête à présider. Et aujourd'hui, il sera question de l'accès à la nature, car depuis un an, une loi punit toute personne qui se promène dans une forêt privée. 135 euros d'amende. Or, 75% de la forêt française est privée. Trouvons des solutions pour rendre la forêt accessible à toutes et à tous.
La forêt, ouais. C'est le truc avec des arbres partout et là où ça sent un peu bizarre quand il fait humide et tout.
Oui, ouais. Attendez, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'une forêt avant de commencer ou...
C'est quand même un sujet vachement technique, quoi. Donc...
non, moi je suis d'accord, hein, parce que la forêt, moi bien sûr, j'en ai entendu parler un peu au lycée, mais sinon j'ai aucune notion. Il n'y a pas des animaux qui vivent dedans?
Non, ça c'est une ferme.
Non, je crois qu'ils sont au salon de l'agriculture.
Attends, c'est quoi ce numéro, vous me jouez là? Vous êtes qui, vous?
On est des Parisiens.
Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que les propriétaires vont trop loin en installant des clôtures dans la forêt?
Oui, les forêts, ce sont des biens communs. Il faut les reprendre aux riches propriétaires pour que tous puissent y accéder.
Ok, donc Robin Desbois est parmi nous. Merci, tout le monde peut savoir. Il y a des propriétaires d'un bout de forêt dans cette assemblée, peut-être?
Bah oui, moi. Mmh. Alors moi, je suis propriétaire d'un domaine. Hein, et j'en ai assez de voir des gueux là, qui s'habillent en polaire décathlon, là. Ça le gâche, le paysage, madame.
Oui. Voilà. Oui, mais ça me paraît maigre comme argumentation, quand même.
Oui, pas du tout. Et vous, par exemple, si vous trouvez un coin, un champignon, vous avez envie de le partager?
Non.
Bah voilà. Bah, moi, mon coin, un champignon, il fait 27 hectares.
Ok. Donc chez vous, les promeneurs doivent rester sur les sentiers autorisés. Mais peut-être que tout le monde ne va pas vouloir respecter cette consigne. Hein.
Ouais, attention, ouais. C'est très important de respecter la propriété privée. Hein. Ah. Vous imaginez si les randonneurs commencent à vouloir se balader en forêt?
Ouais, je vois, ouais, c'est assez naturel.
Non mais attendez, vous imaginez le préjudice subi pour les sous-bois agressés par les semelles de chaussures? Non mais sans déconner, je suis le seul à avoir le danger si les gens ils continuent à marcher au milieu des forêts immenses où ça dérange personne.
Non, il y a moi aussi.
Ah quand même.
Ouais. Et s'ils ont une polaire décathlon en plus,
je suis d'accord.
Ouais, vous êtes d'accord, vous êtes deux seulement. Hein, donc. Alors sinon, on fait payer l'entrée dans la forêt.
Ouais, non mais ça existe déjà. Ça s'appelle un center park.
Ah oui.
Non, pas forcément. Moi, je connais quelqu'un. Mm-hmm. C'est pas moi. C'est un ami. Okay. Mais lui, il va se promener 2 fois par semaine en forêt et ça lui coûte une blinde.
Ah bon? Mais il va se promener où, votre ami?
Au bois de Boulogne.
Ah ouais.
Le mardi et les jeudis, après 23h.
Ah ok, ouais. Enfin, on parle pas de randonnée, là.
Oui, mais bon, il est crevé quand même.
Mais c'est votre ami, quoi. Enfin, bon. Alors, on va faire un pas de côté sur l'accès au domaine public ou autre. À l'accès, quoi, voilà. Avec Mao Drama.
Merci. Merci beaucoup, Charline.
Merci, je suis très très heureuse d'être là. Voilà, je sais pas si certains et certaines ont suivi, mais j'ai eu une semaine un petit peu stressante. Voilà, après peut-être que je l'ai cherché. Je m'appelle Mao Drama, on n'entend jamais Carole Bouquet se plaindre des fleuristes ou encore Christian Clavier insulter des pianos. Ha, lol. Voilà, bon, j'ai eu une semaine stressante. J'ai donc eu envie de m'évader. Mon meilleur ami m'a dit, bon ben si tu veux, on peut aller faire du camping sauvage. Et bon, moi j'aime bien Koh-Lanta, les toilettes sèches de Will of Green et Manu Chao, donc j'ai dit d'accord. Et puis voilà, et c'est là que je découvre que depuis février 2023, le fait de se promener dans un espace naturel privé est passible d'une amende de 135 €. Donc il y a des députés écolos qui ont proposé une loi pour y remédier, mais les députés de la majorité ont fait non, enfin ils parlent pas exactement comme ça, mais c'est en mode genre non, bon bah voilà, je sais pas comment ils parlent. Non, on trouve que ça oppose chasseurs et promeneurs. Nous on propose plutôt une cohabitation respectueuse entre chasseurs et promeneurs. Voilà, je trouve ça juste déjà drôle. Vraiment, j'imagine des gars qui essaient d'expliquer à une gazelle, là où vous voyez un lion, essayez de voir un ami. C'est un verbatim qui est mignon, mais un petit peu absurde. Je sais pas, aussi absurde que, je sais pas, imaginons une ministre à l'égalité homme-femme qui condamnerait publiquement une humoriste féministe sur la base de fake news instrumentalisée par l'extrême droite. Je dis pas que ça arriverait, je dis juste imagine. Il se trouve qu'en plus, on l'a dit, en France, 75% des forêts sont privées. Donc ça veut dire que dans 3/4 des cas, vous ne faites pas des randonnées, vous faites des violations de domicile. Bande de petits rebelles, c'est qui les rockers? C'est pas vous, mais c'est des gens. Bref, j'aimerais qu'au-delà du chiffre, on revienne sur un fait. C'est qu'aujourd'hui, en 2024, en République française, il y a des gens qui possèdent une forêt. C'est pas un jardin, pas un balcon, pas un champ, pas un domaine, une forêt. Il y a même des sites spécialisés pour ça, par exemple sur forêt-investissement.com. Tu peux acheter un bois de 23 hectares dans le Gers avec petite hutte de chasse pour 450 000 €. Et j'ai un pote qui m'en a parlé, j'étais là genre c'est cool Stéphane, mais tu sais à la base t'es consultant, hein, pas shérif de Nottingham. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'Angleterre, là-bas, il y a un truc qui s'appelle « the right to roam », littéralement, le droit à vagabonder. Et c'est inscrit dans leur loi depuis 20 ans. On peut même, si on a envie, se promener dans la petite campagne du Premier ministre, voilà, dans sa résidence privée. Alors c'est super, après moi j'en demande pas tant, hein. Je pense que croiser Macron en moule-bite au fort de Brégançon, eh bien écoute, ça arrête de te donner envie de réarmer démographiquement la France. En Allemagne, carrément, les propriétaires de forêts, ils ont l'obligation de les laver au cas où des gens ont envie de se promener. Et ça m'angoisse un peu. Pourtant, j'ai pas de forêt, mais juste, moi, je sais pas du tout laver. Je me dis, comment tu laves une forêt? Tu peux pas mettre genre les fougères sous le tapis? Alors j'ai dit à mon pote, bon bah c'est pas grave, restons chez nous, on s'évadera autrement à la maison sous une pluie de paillettes, de câlins et d'amour, les seules armes qui vaillent, parce que moi là tout de suite je n'ai pas 135 € à claquer dans une amende pour stationnement gênant sous tilleul. Les avocats ça coûte cher et c'est pas tous les jours que 3 députés RN portent plainte contre toi. Après bon, pour Guillaume Meurice ça s'appelle un mardi, voilà, moi... Moi, j'ai découvert qu'apparemment j'étais connue et que je pouvais devenir Égérie CNews. Qui l'eût cru? Pas moi. En tout cas, qu'il s'agisse d'extrême droite ou de chasseurs, je fais mien les mots de Cupidon. Reçois ma flèche, c'est que du love, bébé. Après, c'est peut-être Kinvé, voilà, qui l'a dit, ou moi, mais merci beaucoup. Mao Drama! Plein de câlins sur toi, Mao. Vous jouez votre spectacle à l'Européen à partir du mois de septembre et la billetterie est ouverte. Alors, en effet, une proposition de loi est actuellement étudiée pour dépénaliser l'accès à la nature.
Moi, je suis pour le pénaliser, l'accès à la nature.
Ouh là là, c'est-à-dire, vous êtes contre envoyer les immigrés dans la nature ou...
Ouais, voilà, ouais. La balade en forêt, on la réserve aux Français de souche.
Ouais.
De souche.
Ouais, je l'avais, il fait peur.
Je suis un génie. Ouais.
Je repose la question centrale, alors comment garantir un libre accès à la nature pour tous les citoyens?
Il faut que les gens ils aient leur propre forêt s'ils veulent se balader dedans. Parce que les assistés forestiers, ça suffit.
Ok. Mais comment on fait pour avoir une forêt à soi et que tout le monde en profite alors?
Ah bah là, c'est simple, il faut faire comme Macron a dit.
Ouais.
Donc chaque jeune de 6e va planter un arbre.
Ouais. Ouais.
Ensuite, en 5e, bah, il plante 2 arbres.
Ouais, bah oui.
Puis en 4e, il plante 3 arbres. Mmh. En 3e, il plante. Non, 4.
3.
Attendez, je me suis trompé, je recommence. Donc en 6e, l'enfant.
Non, stop, c'est bon. Attendez, parce que là, on approche du journal quand même. Ça sent la fin du débat, cette histoire. Voici la proposition de loi que nous voterons après 19h, afin de contourner l'interdiction de se balader en forêt privée sans piétiner pour autant le domaine des riches propriétaires. On votera pour ou contre mettre des patins pour marcher dans la nature, quoi. Voilà, vous l'entendez ? C'est la suspension de séance. On va reprendre à l'issue du journal d'information de 19h.
Le grand dimanche soir. Sur France Inter.
France Inter, 19h18. La suite du grand dimanche soir avec Charline Vanhoenacker et toute sa bande.
Merci Isabelle Souquet pour ces informations. En effet, nous sommes toujours en direct du studio 104 de la maison de la radio et de la musique. Je cherchais de quoi c'était la maison, dites donc. Voilà, mais c'est la radio et la musique, c'est ça. Enfin, c'est ça, ça me revient. Alors, nous allons voter la proposition de loi qu'on a débattue avant 19h, et ça je m'en souviens aussi, donc ça c'est une bonne nouvelle, afin de contourner l'interdiction de se balader en forêt privée sans pour autant piétiner le domaine des riches propriétaires. On va voter pour ou contre mettre des patins pour faire de la rando en nature. Alors par applaudissement, qui est pour ? Ah bon, par applaudissement, qui est contre ? Ah oui, je disais aussi, c'est un peu compliqué, quoi. Cette proposition est rejetée ! Et le grand dimanche soir, c'est jusqu'à 20h avec Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, Isabelle Sorante, Thomas Bideguin, Djoubaka, Mao Drama et Guy Edré. On retrouvera Albin de la Simone pour une reprise d'un tube en live. Et voici notre invitée, la comédienne et metteuse en scène, Léna Bréban.
France Inter. Le grand dimanche soir, Charline Vanhoenacker.
Bonsoir Léna Bréban.
Bonsoir.
C'est la metteuse en scène que nous recevons aujourd'hui pour un spectacle intitulé Musical Colette qui se joue au théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'au 27 avril où Cléo Seigna est seule en scène pour incarner et raconter la vie de Colette. Juliette, dont Colette c'est la passion. Juliette est allée voir le spectacle et elle est tombée en amour. Elle nous en a parlé en long, en large, en travers.
C'est vrai. C'est vrai, c'est toute une vie de Colette qui a eu une vie longue, elle est morte à plus de 80 ans et elle a eu une vie protéiforme. Et le spectacle commence avec les images de ses obsèques nationales, dont elle a bénéficié en 1954. Et on voit la comédienne, on entend surtout sa voix, la comédienne Cléo Seigna, qui persifle par-dessus en disant « Ah, les fleurs sont moches, on a invité des gens que j'aime pas », ce genre de choses. Est-ce qu'il fallait tout de suite expliquer que Colette, c'est d'abord une voix extrêmement insolente ?
Oui, voilà, c'était l'idée. Et surtout, il fallait expliquer tout de suite qu'on allait être dans un biopic avec de l'humour et que le ton devait être donné tout de suite. On est dans le musical, donc on n'est pas dans quelque chose de pompeux où on était là pour donner l'essence que nous, on imaginait de Colette, c'est-à-dire son caractère, son énergie et son insolence aussi, il me semble.
Ouais. Vous dites « nous ». C'est un projet qui a été écrit par Cléo Seigna, la comédienne qu'on voit sur scène, et Alexandre Zambeau, que vous adaptez le texte et vous mettez en scène. Comment est-ce que vous arrivez dans cette histoire et pour quelles raisons ?
Alors en fait, j'ai rencontré Cléo Seigna, j'ai monté un cabaret pour aller sous les balcons des EHPAD pendant le confinement, et j'ai embauché Cléo, et elle arrivait avec ses éventails, et moi j'ai découvert l'art du musical, et c'était complètement fascinant, elle construit ses décors, elle construit ses costumes, et voilà, elle répète ses mouvements, c'est un art complètement complet, et elle m'a dit, oh là là, mais on est en Bourgogne, il y a Saint-Sauveur-en-Puisaye juste à côté, c'est la maison de Colette, et c'est une femme vraiment fascinante, Cléo, et ça vaut vraiment le coup de venir la voir dans ce musical Colette. Et elle m'a dit, mais moi j'adorerais faire quelque chose sur Colette, est-ce que tu me mettrais en scène ? Et je lui dis, bah super, mais si toi tu fais un truc sur Colette, alors on fait quelque chose sur Colette et moi je fais un truc sur toi. C'est-à-dire j'avais envie que ce soit un double portrait de Colette, cette femme incroyable, au destin incroyable, et de Cléo, parce qu'elles ont beaucoup de points communs.
Justement, des points communs, il en faut pour arriver à un spectacle et une harmonie telle. Ces points communs entre Colette, la comédienne qu'il incarne, et vous-même, ce seraient lesquels alors ?
Une recherche de liberté, je pense, une grande recherche de liberté, d'avoir des dessins, de ressembler à personne et d'essayer de suivre sa propre trajectoire. Voilà, j'espère que, en tout cas, Cléo le dit dans le spectacle. Elle dit, moi, Colette m'a donné du courage. Elle me donne du courage. Moi, Colette m'a donné du courage. Cléo me donne du courage. Des tas de femmes me donnent du courage. Et moi, j'aime bien faire des portraits des actrices avec qui je travaille. C'est-à-dire que c'est un double portrait. C'est le rôle plus la personne qui est derrière, parce que c'est des femmes qui me donnent du courage, ou des hommes d'ailleurs. Mais là, il se trouve que c'est une femme, et en plus, elle est épatante. Elle, parce qu'en fait, elle, dans le spectacle, elle chante, elle danse, elle fait comme Loï Fuller, elle fait des éventails, elle fait des...
Ouais. Parce que cette actrice, Chloé Sénia, elle a des numéros des feuillages burlesques.
Voilà.
Et Colette, ce qu'on sait moins, on sait tous d'elle, la grande écrivaine, qui a écrit notamment les Claudines. Ce qu'on sait moins, c'est que quand elle s'est séparée de son premier mari, elle a décidé d'entamer une carrière de musical. Elle faisait de la pantomime. Ouais. Et elle s'est retrouvée seins nus. Et ça a fait un scandale pas possible. Et...
Incroyable. Elle embrassait sa compagne à l'époque, Missy. Elle l'embrassait sur la bouche. Elle faisait une momie qui sortait de son sarcophage. Et elle finissait par s'embrasser sur la bouche. Et elles se sont pris des tas de tomates. Enfin, le spectacle a été interdit. Je trouve ça incroyable d'imaginer ça aujourd'hui. Ça fait sans doute penser à d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce qui est scandaleux aujourd'hui? Et comment nous, on regarde aussi ces choses-là avec nos regards d'aujourd'hui? La nudité, par exemple.
Et puis, Colette étant l'écrivaine de la sensualité...
Complètement.
C'était important. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que Léo Sénia, c'était Colette. Donc, je disais, je suis contente de rencontrer le corps Colette. mais ça fait partie du truc. Un écrivain, c'est pas... Enfin, sauf si c'est... François Mauriac. Mais sinon, c'est un corps aussi.
Ouais, François Mauriac, seins nus, c'est moins... d'accord.
Mais bon petit boule, par contre, François.
Mais je suis contente que vous disiez ça, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus sensuel que d'utiliser les mots, de transmettre des émotions, de transmettre des impressions? Et nous, on a vraiment voulu travailler là-dessus, sur la sensualité des mots, des corps, des lumières, sur l'humour aussi, qui est très important dans mon travail à moi, en tout cas. Et effectivement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sensualité, Colette. Elle adorait bien manger, elle a eu 3 maris, des maîtresses. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a profité de la vie, vraiment.
Du coup, elle ne s'est pas ennuyée, j'ai l'impression.
Non, elle s'est bien fait.
Musical Colette, c'est au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 27 avril, c'est donc à Paris. Est-ce qu'il est prévu d'aller sillonner la France?
Alors complètement, il reste 9 représentations à Paris, donc vraiment, venez nous voir, on joue les jeudis, vendredis, samedi, et surtout après, elle va être en tournée dans toute la France.
Ah ben voilà,
70 dates de tournée, on est hyper fiers.
Allez, Musical Colette dans toute la France, avec notre invitée Léna Bréban. De quoi parle-t-on dans les salons? Pour ça, il faut pouvoir les fréquenter. Il faut avoir la carte, montrer patte blanche. Et de nos jours, ça s'appelle juste avoir une accréditation. Un badge, un micro. Voici le reportage d'Investigation Comique de Guillaume Meurice.
Merci beaucoup, merci les amis. Je vais vous parler des chômeurs aujourd'hui, ces gens qui passent leur journée à fumer des gros joints, boire de la bière en écoutant de la musique, des sortes de Chewbacca mais sans fiche de paye, voyez un petit peu. Et il y a une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui se construit en ce moment. Je vais pas vous détailler les propositions, mais spoiler alerte, les chômeurs, vous êtes des grosses merdes. Voilà, c'est comme Sixième Sens. Bruce Willis, il est mort depuis le début. Et ben Gabriel Attal, il est de droite depuis le début. Il y avait des indices. Le gars, s'il sort du 6e arrondissement, il meurt. C'est un indice déjà. Voilà. Toujours est-il qu'il faut qu'ils se bougent le cul, les chômeurs. Alors, pour les aider, je suis allé donc à l'énorme événement Go Entrepreneur, à la Défense Arena, nom de Dieu. D'habitude, c'est Beyoncé. Et là, c'était Catherine Vautrin. Une salle, 2 ambiances. D'ailleurs, première question posée à ce grand événement Go Entrepreneur.
Quelle est la plus grande qualité de Catherine Vautrin?
C'est qui, Catherine Vautrin?
Catherine Vautrin. C'est... Ouais. Mais tout le monde connaît Catherine Vautrin ici, normalement. C'est la ministre du Travail.
Merde, ouais.
Ah non, bon. Après, c'est normal, c'est l'émotion aussi. Hein. On parle quand même de Catherine Vautrin, hein, la ministre donc, du Travail. Même si ministre du Travail sous Macron, c'est comme ministre des Droits de l'Homme sous Netanyahou. C'est payé en cachet de figure, hein, faut être honnête. Donc. Allez, quelle est la clé? Quelle est la clé pour retrouver du travail? J'ai été voir l'atelier du pitch. Bah bien sûr, il y a un atelier pour bien apprendre à pitcher.
La clé, c'est bon pitch.
Comment un chômeur pourrait correctement se pitcher?
Être authentique.
Faut être authentique pour un bon pitch.
Oui. Ouais. Être sincère et raconter 1000 histoires.
Ah, est-ce qu'on peut raconter 1000 histoires et être sincère dans les 1000?
Oui. Faut être proactif.
Faut être proactif, les chômeurs. Vous n'êtes pas assez proactifs. Vous êtes là avec vos rapidos, vos verres dessus. Soyez proactifs. Benchmarkez vos synergies, les chômeurs. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire face à un employeur?
Au lieu de leur dire « je cherche un boulot », c'est vachement négatif, ouais. Dire « voilà, j'ai une compétence dans ce domaine-là voilà. ».
Si on va au McDo, par exemple, on peut dire « je sais mettre des frites dans un sachet ».
Voilà, je suis capable de bosser tous les soirs dans une ambiance d'odeur de frites. Il faut créer ces opportunités.
Créer vos opportunités, les chômeurs. C'est ça, ils ne comprennent pas. Les gens, ils se font virer. Ils ne comprennent pas, c'est une opportunité. Qu'est-ce qu'elle a dit, Adèle Vendrette, quand elle nous a viré de la quotidienne pour passer en hebdo? Elle a dit « c'est un nouveau défi ». Et voilà, et regardez, aujourd'hui, on a su créer, nous, des opportunités. C'est vrai, on veut dire. On applaudit, Adèle, ça va. Mais, ceci dit, les amis, il y a quand même un problème avec les chômeurs.
Ce sont des gens, bah, par exemple, qui ne veulent plus travailler le dimanche. Je connais des gens qui, par exemple, ils louent des salles de réception. Ils ne trouvent personne pour venir faire le ménage à 8h le dimanche parce que quelqu'un qui ne travaille pas, il ne va pas vouloir accepter n'importe quoi. Alors qu'en fait, il faudrait, parce que dès l'instant que vous avez mis le pied dans le boulot, vous rencontrez des gens.
Est-ce qu'à 8h le dimanche matin, on rencontre vraiment des gens?
Moi, vous êtes dans une dynamique positive.
Une dynamique positive. Vous pataugez dans le vomi pour 10 balles, vous avez fait 3h30 de RER, vous êtes dans une belle dynamique, les chômeurs. Et ça, c'est aussi un discours donc on retrouve partout à Go Entrepreneur, mais c'est celui d'un certain Bruno Bonnel. C'est un ex-député En Marche que Macron a nommé, tenez-vous bien, secrétaire général du plan d'investissement France 2030. Donc c'est un petit peu la resta de l'événement avec Catherine, bien évidemment. Et il a des conseils pour les chômeurs.
Ne pas hésiter à baisser sa qualification pour aller participer à une aventure.
Alors, par exemple, si on est Bac+5 en biologie.
Je pense que le plus difficile, justement, c'est la remise en question. Peut-être qu'on était Bac+5 en biologie et que finalement, on va s'éclater dans un bar en servant des cafés.
Et ben voilà. Et c'est comme ça qu'on vit en Macronie. C'est un peu Narnia. C'est un peu un monde magique où on se révèle à soi-même. Tiens, j'en suis à mon 3e burn-out. C'est parce que j'ai pas encore compris que ma passion, c'est de nettoyer les chiottes. Oui, mais oui, mais parfois, faut pas hésiter à revoir ses ambitions à la baisse. D'autant plus que...
L'ambition à la baisse, ça n'existe pas. L'ambition, c'est de choisir sa vie et d'arriver justement à développer une passion et faire quelque chose qu'on aime. Et
mais justement, c'est notre passion, c'est pas servir des cafés.
Ah non, mais je vous ai donné un exemple. Ne vous faites pas retourner à l'envers. On peut faire un Bac+5 en biologie et réussir dans la physique quantique, si vous voulez.
Mais bien sûr, Bruno. Donne-moi l'adresse de ton dealer immédiatement, Bruno. C'est génial. C'est génial, l'endroit où tu voyages. Ça doit être cool d'en avoir rien à foutre de la réalité à ce point-là. Allez, je vous laisse une soirée avec Bruno et Catherine, votre train. Hein. Et vous savez que Bernard Arnault, il mérite son salaire. On s'en tape de la réalité, on a rien à foutre. Et vous savez quoi, Israël? Non, allez, non, 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 j'arrête. C'est moi qui vais me retrouver au chômage. Arrête.
Et nous aussi. Merci Guillaume Meurice. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là, dites donc. Hein? Par exemple, Thomas Bideguin, vous qui êtes spécialiste du storytelling, qui êtes scénariste, ça c'est vraiment du storytelling, c'est pas possible ça.
Ah ouais, de toute façon quand on joue avec la réalité là, ce niveau de fiction, là c'est pas mal.
Même vous, vous êtes dépassé, j'ai l'impression.
Ah bah on n'arrive pas à écrire des trucs comme ça.
C'est vrai que dans un scénario, parfois on n'y croirait pas. Non,
bah exactement, ouais. Le gars dit non, on n'y croit pas.
Ouais. C'est donc... du réalisme magique.
Oui, réalisme magique, c'est, oh, c'est joli. C'est peut-être un peu trop pour une chronique de Guillaume.
Trop, mais...
C'est le titre de mon autobiographie.
Allez, Léna Brébon est en notre compagnie. Elle met en scène Musical Colette au théâtre Tristan Bernard avant de sillonner toute la France où Cléo Seigna incarne Colette sur scène, Juliette.
Vous la faites chanter, vous la faites danser, vous la faites jouer. Et puis, à un moment, il y a des écrans. Et moi, avec les écrans, je trouve ça toujours un peu compliqué au théâtre. Mais là... Là, c'est une idée brillante parce que tout à coup apparaît dans les écrans Colette quand elle était Claudine, ou plutôt quand elle écrivait les Claudines et que Willy, son mari, pour des besoins de pub, la déguisait en Claudine elle-même pour parader dans les salons à Paris. Et ça a d'ailleurs donné les plus grands tubes de Colette. C'était ça le but, c'était qu'on voit la guerre qu'il y a pu y avoir finalement entre Colette et sa créature.
Bah, je trouvais ça très drôle. De toute façon, elle est toute seule en scène, donc il fallait trouver le moyen de renouveler l'écoute pour les spectateurs. Et puis je trouvais ça drôle, cette espèce de petit diablotin. Et je me suis toujours demandé, mais qu'arrive-t-il au personnage de roman une fois que l'auteur ou l'autrice se lasse finalement, et je trouve ça extrêmement drôle que Claudine soit furax, que Colette soit passée à autre chose, quoi. Et du coup, voilà, on a trouvé que c'était le bon contrepoint, et ça nous permettait aussi de dire un peu ce que le spectateur pouvait penser, ou voilà, ça nous permettait de faire totalement contrepoint tout le temps, et d'avoir un vrai dialogue entre cette Claudine, qui était aussi un peu nous, spectateurs, et le personnage de Colette interprété par Cléo.
Et puis c'est vrai, quand on voit le spectacle, on vous donnez avoir une image de Colette qui est, à mon sens, la vraie, c'est-à-dire Colette avec ses ambivalences. Et par exemple, dire de Colette que c'est une féministe, c'est compliqué. C'est une émancipée, pour sûr. Mais elle était sans doute trop égoïste pour jouer un quelconque jeu collectif. Et ça aussi, vous le racontez, et c'est bien. Ça rend aussi les gens aimables d'être ambivalents.
Bah, bien sûr, les gens sont complexes. Et donc, oui, Colette, on ne peut pas dire qu'elle était féministe. On peut dire qu'elle a eu une vie extrêmement libre et que toute sa vie est une ode à la liberté. Mais elle ne voulait pas d'étiquette, elle ne voulait pas... Et elle disait même des choses très rudes sur les suffragettes. Ouais. Et moi, ça m'a fait marrer, ça nous a fait marrer avec Cléo, de le mettre dans le spectacle et de le faire entendre, parce que les gens font oh! Aujourd'hui, les gens sont... Elle disait le fouet et le harem pour les suffragettes. Enfin, je veux dire, c'est d'une violence terrible. Et en même temps, sa vie est une ode de féminisme, en vrai. Est une ode à la liberté, en tout cas.
Et souvent, pour ses lectrices, elle donne la carte pour avoir envie d'être libre et d'être féministe.
Bien sûr. Et pourtant, jamais, je pense, elle aurait accepté cette étiquette. Jamais. Elle l'a réfutée totalement. Mais c'est ça qui est drôle. C'est un personnage vraiment un sacré caractère, quoi.
Et on passe du musical de Colette à la musique live, parce qu'il a promis de revenir nous voir, Albin de la Simone, avec une reprise, Djoubaka.
Eh oui, une reprise de William Scheller. Oh. Eh ouais, « Oh, je cours tout seul ». Alors, vous savez, en 79, certaines chansons naissent de rêves et d'autres de cauchemars. Alors, pour Scheller, c'était un cauchemar. Il s'imaginait, il l'a raconté souvent, donc je le fais. Mm-hmm. Donc, il était en basket et pyjama, en train de courir après un train. Il y a de la pluie, il se prend les ronds, c'est une catastrophe, sa vie, quoi, à ce moment-là. Et il n'arrive jamais à dépasser ce train. Et des fois, c'est de ça que naissent les chansons. Allez, « Oh, je cours tout seul », mais par Albin de la Simone.
C'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage, et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Où je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard. Et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui saluent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Où je cours tout seul. Je cours et je me sens. sens toujours tout seul. Et je regarde ceux qui s'endorment aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre. Je sais, mais je peux pas m'arrêter vu qu'il y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Albin de la Simone. Merci, cher Albin, accompagné par Christine Rock. Je rappelle que les 100 prochaines années, l'album est disponible et qu'on peut vous voir au Trianon le 23 avril et le 12 avril aussi à Saint-Barthélemy d'Anjou au théâtre de l'Hôtel de Ville.
Ouais,
merci beaucoup.
C'est la fin de la tournée, merci. Oh,
merci de nous avoir accompagnés ce soir.
Merci à vous, merci beaucoup.
C'était un plaisir. Albin de la Simone sur France Inter, en direct dans le Grand Dimanche Soir. Merci aussi aux techniciens qui prépare les lives et la prise de son. Valentin Azan, Zielinski et Clément Berman, sonorisation Julie Garraud et au parc instrumental Arthur Gousset, car c'est un spectacle radio qu'on vous propose tous les dimanches soirs. Vous pouvez venir nous voir. La billetterie est désormais ouverte pour dimanche prochain sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique. J'en profite pour dire un petit mot aux 300 personnes à Strasbourg qui n'ont pas pu rentrer dans la salle dimanche dernier parce que c'était une salle de 500 places. Vous étiez 800. Résultat, voilà, vous avez, j'envoie un bisou pour les chacun des 300 personnes qui n'ont pas pu rentrer. On espère revenir à Strasbourg. Ben, quand vous nous réinvitez, on revient, les amis, hein, avec joie. En attendant, ça se passe à Paris, sur France Inter, sur la radio, dans vos oreilles. Et le dimanche, c'est fait pour jouer. Et le petit jeu du grand dimanche soir, c'est celui qui n'a toujours pas de budget cadeau. Toujours pas. Donc, c'est le jeu 100 euros sous la houlette de Juliette Arnaud et de Guillaume Meurice.
C'est reparti pour une nouvelle édition du jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
euros.
Quelle ambiance. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Guillaume. Eh bien, une fois encore, Guillaume, nous avons sélectionné la crème de la crème, une candidate et une candidate, dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.
Et alors, vous êtes avec qui, Juliette, ce soir?
Tenez-vous bien.
Je me
Guillaume,
tiens bien.
Je
oui.
suis avec Délice. Délice, comment vous appelez-vous?
Délice.
C'est donc vrai.
C'est
donc
vrai. C'est vrai et c'est formidable. Délice, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie?
Je cours beaucoup. D'ailleurs, beaucoup. D'ailleurs, je viens de finir le marathon de Paris en même pas une heure.
Oh! Bravo, Délice. Mais dites-moi, quel est votre secret?
La mythomanie.
Ah oui, je connais bien, je fais moi-même du 95D. Et vous, Guillaume, avec qui êtes-vous?
Eh bien, je suis avec Christelle, figurez-vous. Christelle, quel est votre prénom?
Christelle.
Ah, pas mal, je m'y attendais un petit peu. Comme Christelle Pinochet, un hasard, je ne sais pas. Christelle, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie?
Eh bien, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis une macroniste de gauche. Eh oui, ça existe.
Ah, on en a trouvé une. Alors ça, c'est incroyable. Et ça consiste en quoi?
Ben, je pense qu'il faut plus d'aide sociale.
Ah oui, effectivement, d'accord.
Mais seulement pour les milliardaires, hein.
Ah d'accord, ah oui là je comprends mieux, ben, je crois que le cadeau qu'on a ce soir va vous plaire, vous allez voir.
Ah oui Guillaume, parce qu'il s'agit d'un bâton à chômeurs.
Ah oui, c'est
pour aider les chômeurs de votre entourage à retrouver du travail, il suffit de les taper avec ça.
Ah oui, oui.
Et c'est une technique approuvée par Gabriel Attal.
Ouais, ouais, les petits coups derrière la nuque comme ça, et puis voilà. Ouais,
et je vais pas le faire sur Délice, bien sûr.
Non. Alors, super cadeau, mais je crois qu'on peut y aller. C'est parti sans plus attendre pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des...
Et on commence avec la première question, Guillaume.
Alors, question pour Christelle, concentration maximale. Qui a fait un retour à la matinale de France Inter cette semaine? Est-ce que c'est François Hollande? Est-ce que c'est Xavier Dupont de Ligonnès? Ou est-ce que c'est une idée de gauche? Ah, ah. Alors, Christelle, on vous écoute. Ah, c'est maintenant, hein, c'est maintenant. Attention, Christelle, je sais que ça met beaucoup de pression, mais 1, 2 ou 3?
Hollande ou la dernière?
Ah, mais il faut choisir. Maintenant, Christelle?
Hollande.
Hollande, bonne réponse! Ce fut un accouchement dans la douleur, mais c'est un beau bébé. Merci Christelle.
Allez, on passe à ma question d'Élise. Selon le classement Forbes, il y a 10 nouveaux milliardaires français par rapport à l'an dernier. Parmi eux, qui y a-t-il ? Est-ce qu'il y a deux héritiers, Elena et Rémi Dassault ? Est-ce qu'il y a Guillaume Meurice ? Ça va, le service public ? Est-ce qu'il y a l'héritière de l'Empire, Arnaud, Juliette ? Ça va, les pauvres ? Quelle est votre réponse ? 1, 2 ou 3 ?
1.
Et oui.
Oh, un partout, le suspense est total.
Et pour les départager, on va sans plus attendre passer à la question bonus, Guillaume.
La question comment ? La question
bonus.
Incroyable, qui vaut 8267 points aujourd'hui. Donc,
c'est
dire,
énorme.
L'enjeu est énorme. Concentrez-vous. Combien est payé Jordan Bardella pour ne rien foutre au Parlement européen ? Tous les mois, on parle en salaire net. Christelle ?
Trop.
Trop. Et ça donnerait quoi en
chiffres ? Je n'accepterai pas cette réponse.
Non, d'accord. Christelle, on sent qu'elle se concentre. Hein, Christelle ? Alors, un chiffre, un salaire net.
20 000.
20 000, d'accord.
Très bien. Très bien. Délice, quel est le chiffre que vous proposez ?
Oh, 15 000 ans.
Ouf. Bon, alors
c'est beaucoup, mais c'est Délice qui a gagné,
eh bien
puisque
sûr.
La bonne réponse est de 7300 euros.
Mais ouais, désolé Christelle, mais bravo Délice. Vous gagnez ce magnifique bâton à chômeur. Vous pouvez l'utiliser dès à présent dans le public. Il y a certainement des feignasses. N'hésitez pas. Quant à nous, Juliette, on se retrouve la semaine prochaine pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des.
Merci Juliette, merci Guillaume et merci aux participantes. Et si vous voulez participer, ben voilà, prenez des billets sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique, parce que je me suis rappelé que c'était Maison de la Radio et de la Musique. Léna Brébon est avec nous, comédienne et metteuse en scène. On vous reçoit pour la mise en scène de Musical Colette qui va partir en tournée dans toute la France. Vous disiez en tout début d'interview que pendant le Covid, vous avez pris la route pour partir à la rencontre d'un public isolé et notamment d'aller jouer sous les balcons dans les EHPAD, c'est ça ?
Oui,
racontez-nous.
Ouais. Ben en fait, c'est j'en discutais. On était pendant le Covid et je trouvais ça assez insupportable le côté on sert à rien, nous les artistes. Et je me disais, mais on sert à quoi ? De quoi je suis capable ? Et je me dis, ben moi, je pense que je suis capable de donner de l'émotion et au fond de donner envie un peu de vivre, quoi, de donner un peu de voilà de sensations comme ça aux gens. Et du coup, avec le directeur de l'Espace des Arts et la personne du Grand Chalon, on a, enfin voilà, ils ont produit un cabaret et on est allé sous les balcons des EHPAD, vraiment concrètement. Et ça a été une aventure de dingue. On est parti, on était 5. Ça a été une aventure de dingue. Et donc, c'est là où j'ai fait venir Cléo Senia, qui faisait des effeuillages burlesques pour les EHPAD. Franchement, c'était génial. C'était génial. Il y avait aussi Léa Lopez qui chantait a cappella, Alexandre Zambo, Antonin Morel, Adrien Urso. Et en fait, chacun venait avec sa spécificité. C'était hyper beau. Il y en a qui chantaient. On était certains à jouer, des fois on chantait tous ensemble, un répertoire. C'est aussi que j'étais partie du principe que quand on a Alzheimer, la dernière chose qui reste, c'est la musique pour atteindre les émotions. Et du coup, on a regardé, j'avais cherché des chansons voilà, qui pouvaient parler aux gens. Et il y a eu des, franchement, il y a eu des moments, moi c'est une des choses les plus inoubliables que j'ai faites, et je pense pour mes partenaires aussi. Ouais.
Et quelle est la réaction du public sur le moment quand vous jouez ? Il y a des réactions sur, vous êtes enfin, c'est le contraire, vous êtes en bas, ils sont en haut ? C'est vraiment s'ils sont au balcon ?
Alors parfois, ils étaient, il y avait juste une distance entre nous. Parfois, on était en dessous. La première fois, c'était vraiment dans une maison comme ça. On est arrivé. C'était une résidence. Ils n'avaient vu personne depuis 5 semaines. Franchement, c'était hyper émouvant. Ils ont ouvert leurs fenêtres. Et on commençait par la chanson de Joe Dassin. « Salut, c'est encore moi. Salut. » Comment ça va ? Et c'était fou, quoi. Et ils les entendent rire, de les voir sourire. C'était vraiment, c'était un moment dingue. Après, c'était chaque fois très différent. Des fois, on a joué vraiment devant des gens sur l'immédicalisé. C'était très, fallait, voilà, c'était dur pour nous des fois aussi de tenir l'émotion. Ouais. Et puis parfois, des gens qui se levaient pour danser, c'était fou. Oh, des vieux comme ça qui se levaient leur dernière énergie pour danser sur la chanson de Michel. Michel Fugain.
Génial.
Voilà,
et en plus, c'est là qu'est né ce projet de musical collette. Donc, comme vous voyez,
cette rencontre avec cet artiste incroyable, Cléo Seigna.
Léna Brébant est en notre compagnie. Et alors, je ne sais pas ce que vous faites le dimanche soir à cette heure-ci, 19h47. Ça, j'ai bien vu l'horloge. Hein, donc, bon, là, on repasse la dernière chemise pour demain matin. On prépare le Tupperware si vous êtes un petit peu organisé, le cartable, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a des journalistes qui sont d'astreinte le dimanche soir et qui préparent les éditions du lendemain, qui bouclent les articles. Alors, on va se rendre dans quelques-unes de ces rédactions.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de France Bleu, Drôme-Ardèche.
Bon, vous avez vu l'invité de France Inter cette semaine ?
Jordan Bardella ?
Non, j'ai dit l'invité, pas le chroniqueur. Mercredi, Léa Salamé, elle a reçu James Cameron.
Quoi ? Et ça, c'est quel parti politique ?
Non, James Cameron, Titanic.
Ah, parti socialiste.
Bon, non, il faut qu'on fasse plus fort. Il faut qu'on fasse plus fort. Alors, des idées d'invités pour demain ?
Alors, moi, je peux inviter Olivier. C'est le directeur du musée de la raviole.
Bah, ça fait pas trois fois qu'il vient cette semaine ?
Ouais, non, mais là, il y a une nouvelle raviole qui vient de sortir. Ah. Et vous allez voir, c'est assez dingue.
Okay. Parce que... Pendant ce temps-là, à la rédaction d'Europe 1.
Bon, quels sont nos invités politiques cette semaine ?
Alors, lundi, Zemmour.
Mardi, Marion Maréchal.
Mercredi, Bardella.
Jeudi, Dupont-Aignan.
Et vendredi, c'est l'autre gaucho, là, comment qu'il s'appelle
déjà ? Éric Ciotti.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de France Bleu, Drôme-Ardèche.
Ouais, alors la raviole, en fait, elle est en quatre dimensions.
Non, c'est chiant, c'est chiant. Non, c'est méga chiant. Est-ce que vous avez d'autres idées d'invités ?
Ouais, moi j'ai Véro. Elle a bossé 5 ans dans le musée du Picodon.
Arrête.
Oh. Allô ? Non ! Ça suffit, laissez-nous maintenant !
Oh, c'était qui ?
Manuel Valls.
Oh.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Radio Fête Foraine.
C'est parti pour un tour, un max de sensations ce soir. Est-ce que vous en voulez encore ?
Pendant ce temps-là, à la rédaction de France Inter.
Bon, la semaine dernière, on a eu James Cameron. Cette semaine, il faut qu'on fasse encore plus fort comme invité. Donc là, j'attends de vous des idées.
Eh ben, on n'a qu'à inviter Bruno Retailleau. Mais moi, il me manque.
Non, laissez-nous. Vous faites pas partie de la rédaction, Madame Vanhoenacker.
Et si on invitait Coluche ?
Ah non, parce que Coluche, il est mort. Hein.
Mort.
Non. Je parle du nouveau Coluche.
Si, je vois très bien de qui il s'agit. Mais si !
Non.
C'est le fameux
Aymeric Lomprey.
Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu. Hey, vous devez deviner qui je suis. Hey, you gotta walk and run from Texas, from Donald Trump. Aymeric-in. Allez, come on, l'actualité, c'est parti. Cette semaine, une actualité m'a bien sauté à la figure. Contrairement à d'autres actualités qui sautaient moins haut, comme par exemple la sortie du livre de Guillaume. Non, je déconne, il est génial ton livre, Guillaume. Il est génial. C'est un voyage. Il est top. Tu tires à boulet rouge dans le vitriol. Ça fait une semaine, je suis dessus. Mais c'est un pamphlet. C'est génial. Pour l'instant, j'ai juste lu la page du même auteur, mais je pense que le livre va être super. Moins long, j'espère, mais super. Alors, dans l'actualité, pas de grosse surprise cette semaine, Stanislas Guérini a dit de la merde. Pas surprenant, ça fait 42 ans qu'il fait ça, on va pas changer maintenant. Hein. Sauf depuis Stanislas, depuis qu'il était tout petit déjà, c'était un peu un con de droite. Non, je te jure, tu sais, il avait une turbulette matelassée sans manches. Il était là. Je veux aller dans les bras de Giscard. Je veux congeler du lait de maman et le revendre à l'ouverture de la bourse de Hong Kong quand le cours du lait va augmenter. Génial cette chronique. Non, alors, Stanislas, il a fait école alsacienne, lycée Henri IV, HEC. Et puis après, il s'est fait tout seul. sous le regard attendri de son papa Bernard, directeur français d'Air Product, le troisième groupe mondial dans le secteur des gaz industriels. Bref, Stanislas Guérini, c'est l'école de la street, et ce, combat permanent contre sa destinée en a fait quelqu'un de très attaché à la valeur mérite. Et de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas, puisque Stanislas veut intégrer la valeur mérite dans le salaire de la fonction publique. Ouais, vous êtes contents les fonctionnaires? Ouais, un peu de challenge dans vos vies si moroses. Maintenant, quand vous allez bien travailler, vous allez très mal payer, et quand vous allez mal travailler, vous allez très mal payer. C'est top, c'est top. Oui, non, c'est de la merde, c'est de la merde. Même Thatcher, elle serait là, il va trop loin le grenouille. Et puis en plus, la rémunération au mérite, ça veut rien dire, parce que c'est subjectif, le mérite. Tu vois, c'est, moi, par exemple, si je fais une chronique où je dis que Stanislas Guérini, c'est un gros con de droite, bah, je trouve que j'ai plutôt bien travaillé. Alors que Stanislas, tu dirais, pas ouf. Allez, parce que c'est une question de référentiel, vous voyez. Par exemple, bon, quand vous êtes dans un train, bon, le train, vous arrivez, bon, le quai bouge, si le train part. C'est le... Non, bon, imaginons, vous loupez votre quai, le train. Vous loupez votre train ? Le quai, quoi ? Bon, là, je travaille pas bien. Je ne mérite pas mon salaire. Ça marche bien, leur truc de mérite, là. En fait, ils viennent d'avoir une nouvelle idée pour pas nous augmenter. Avant, c'est parce qu'il y avait pas d'argent. Maintenant, c'est parce qu'on est des grosses merdes. Alors, pour conclure, la rémunération mérite, je dirais plutôt oui, mais il faut l'étendre à tout le monde. Donc, deux mauvaises nouvelles. Une pour Guillaume, ton livre vient de passer à 2 €. Et une pour Stanislas, t'as plus les moyens de l'acheter. Merci de m'avoir écouté.
C'était Aymeric Lompré. Merci Aymeric. Et donc la semaine prochaine, ne loupez pas la chronique sur les gros cons de gauche. Afin d'équilibrer, on l'attend tous. Voilà. Et j'en profite pour saluer les confrères de France Bleu Drôme Ardèche. Je les embrasse. Moi, je suis là pour l'équilibre, pour fédérer tout le monde. Alors, vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter. Et j'en profite pour remercier Camille Waldschmid à l'atelier graphique, au service Repro pour les décors et à la machinerie, Christophe Boulon et Maureen Héberden. Léna Brébon, vous avez fait allusion aussi à la maison de Colette. Est-ce qu'elle se visite, la maison de Colette ?
Bien sûr, oui, tout à fait. Et c'est très intéressant de faire cette visite et pour pouvoir... Cléo, elle s'est imprégnée comme ça, elle a rencontré Colette comme ça.
Celle qui l'incarne, ouais.
Voilà, elle, tout à fait, Cléo Seigna. Et elle, c'est en rentrant dans la maison de Colette, en la visitant, qu'elle a eu envie de lire tout. Et après, elle a lu toute la Pléiade et on est rentré comme ça dans l'œuvre de Colette par son intimité, en fait. C'est intéressant de voir les maisons, de voir où ces grandes autrices ont vécu.
Et rappelez-nous où elle se trouve, cette maison ?
À Saint-Sauveur-en-Puisée. Voilà.
Juliette, vous êtes déjà allée ?
Non, pas encore.
Allez, je vous emmène. Allez ?
Pour de vrai ?
Bah, bien sûr, on y va. On se prend un week-end et on va voir Colette. Mais voilà, mais bien sûr.
On peut revenir avec vous, du coup, avec Cléo.
Venez avec joie. Avec joie.
Semaine prochaine, on fera Jean-Marie Bigard pour équilibrer, parce qu'il y a un moment donné, Colette.
Fédérer un peu.
C'est normal, on fédère le pays.
Musical Colette, c'est au théâtre Tristan Bernard, jusqu'au 27 avril, avec Cléo Seigna, mise en scène Léna Brébant. C'est les jeudis, vendredis, samedi à 19h, et puis en tournée dans toute la France. Ben oui, mais l'équilibre, si vous voulez,
c'est une vie. C'est un sacerdoce.
Voilà, c'est vraiment.
C'est la vie que vous avez choisi de mener.
Je suis ravie d'avoir ce rôle d'équilibre à moi toute seule. Ça fait vraiment. C'est beaucoup de travail. Alors, beaucoup de travail. Ne faites plus rien d'autre. Franchement, ne bougez plus un orteil. Ne bougez plus. Ne bougez plus. On arrive à la fin de cette émission. Il n'y a pas de guitare, il y a un clavier. Et un clavier parce que ça rime avec Guédré.
Bonsoir à tous. Bon. Je sais pas si ce sera très équilibré, pardon Charline. J'étais pas prévenue.
La belle vie, c'est fini. Il faut faire des économies. L'heure n'est plus à l'insouciance. Il faut réduire les finances. C'est la panique, c'est le stress. Il faut vite renflouer les caisses. Faut trouver des sous pour boucher les trous. Il faut chercher, mais chercher où? La fraude fiscale, ça semble très compliqué. Tuer les actionnaires, faut pas autoriser. Interdire l'héritage, ouais, trop clivant. Mais alors, où trouver tout cet argent? Peut-être qu'il faut chercher là où il y en a beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Tellement beaucoup que c'est même beaucoup.
beaucoup trop, comme dans le compte en banque de Bernard Arnault. Allez Bernard, tu nous délaisses, ça fait longtemps qu'on n'a plus un rond. Allez Bernard, partage les richesses, allez Bernard, crache un peu de pognon. Regarde les Bernards, ils font n'importe quoi. Ils prennent des sous là où il n'y en a déjà pas. Ils en prennent à l'école, ils en prennent à l'hôpital, ils en prennent aux chômeurs, tu vois bien qu'ils s'y prennent mal. 20 milliards pour toi, c'est rien. Si tu les donnais, il t'en resterait encore 180. Si tu te torchais avec des billets de 100 euros, même pour tous les cacas de ta vie, ce serait beaucoup trop. Même si tu te sers de tes bifetons pour allumer ta cheminée, franchement t'as de quoi te chauffer jusqu'à la fin de l'humanité. Même si tu sortais 3000 balles à chaque connerie d'Anouna. Ouais bon, là ça marche pas. En vrai Bernard, ils te servent à quoi? Tes 200 milliards à part te dire qu'ils sont à toi. T'aurais pas assez de 1000 vies pour les dépenser. En revanche, y'a des milliers de vies que ça pourrait aider. Allez Bernard, tu nous délaisses, ça fait longtemps qu'on n'a plus un rond. Allez Bernard, partage les richesses, allez Bernard, crache un peu de pognon.
Allez tous ensemble, je sens que vous êtes chaud, c'est parti.
C'était bien envoyé, je ne vous demanderai pas d'équilibrer avec l'abbé Pierre la semaine prochaine, rassurez-vous. Merci beaucoup à Léna Bréban, merci aussi à Albin de la Simone et Flora Amara qui a assuré le stand-up. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission, notre attaché de production Alexia Lacour, réalisation François Audouin, rédaction en chef d'orchestre Ramzi Assadi qui assure la coécriture avec Xavier Nau et Romain Forgeor. Merci à Mathilde Dessour qui se charge de l'édition de nos pages web. Merci aux hôtes et hôtesses d'accueil et dans les loges aussi. Merci à Farid Melab, notre régisseur ce soir. C'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Aymeric Lompré, Isabelle Sorante, Thomas Bideguin, Djoubaka, Mao Drama et Guy Edré.
Et Charline Vanhoenacke.
Et après le journal, retrouvez les petits bateaux de Camille Cronier et ensuite le masque et la plume avec Rebecca Manzoni. On vous donne rendez-vous dimanche prochain en direct et en public.